La marque Totem, métaphore originale inventée par notre confrère Philippe de Liège, est le symbole d'une marque forte dont on parle naturellement au travers du bouche à oreille. Une marque qui n'a plus besoin de se vendre, mais qui est achetée naturellement par ses clients. Pour comprendre comment devenir une marque Totem, j'ai interviewé Philippe pour parler de son nouveau livre dont le titre complet est « Devenir une marque Totem, droits et devoirs du personal branding ». Un ouvrage qui constitue une bonne suite au précédent et qui sera utile aux entreprises et indépendants qui désirent vendre plus et mieux et surtout plus efficacement. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, comment devenir une marque Totem avec Philippe de Liège. Une marque Totem est une marque initialement reconnue par ses pairs, elle a réussi. Ensuite, son personal branding, nous dit Philippe de Liège, et devient référente dans son secteur d'activité. Autour d'elle, gravitent ses clients et prospects, mais également les partenaires et surtout les compétiteurs. Une marque Totem annonce quelque chose qui va arriver, à laquelle elle contribue. Pour comprendre comment devenir une marque Totem, j'ai interviewé Philippe de Liège et je vous laisse en sa compagnie. Et je suis en direct avec Philippe de Liège. Bonjour Philippe, tu es en direct de Bruxelles comme d'habitude et aujourd'hui nous allons parler de ton nouveau livre « Devenir une marque Totem ». D'ailleurs j'aime beaucoup le visuel que ton graphiste a réalisé pour le bouquin, enfin les visuels, parce qu'ils sont, très parlants, très sympas. Et je pense qu'ils sont assez parlants aussi. Finalement, une bonne prolongation de ton bouquin précédent qu'on a déjà commenté sur Visionary Marketing. Alors aujourd'hui, je vais te demander brièvement de rappeler ce que tu entends par marque Totem et on va passer tout de suite à comment faire pour devenir une marque Totem, qu'on soit un individu ou une entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est brièvement la marque Totem ?
Ah ben, tout d'abord, bonjour et merci de m'avoir invité pour une seconde fois pour parler de mon quatrième bébé qui est en effet devenir une marque Totem, droit et devoir du personal branding. Alors, c'est quoi une marque Totem ? C'est quelqu'un qui a particulièrement réussi son, ce qu'on appelle le marketing de soi, son personal branding, son marketing de notoriété personnelle, et qui est devenu un référent, une référence, un phare dans son secteur d'activité. C'est-à-dire c'est quelqu'un autour de laquelle gravitent aussi bien ben, naturellement ses clients, ses probablement ses prospects, mais également les partenaires et surtout les compétiteurs. Et donc finalement c'est lui le leader de son secteur d'activité. C'est lui qui donne le là. Tout ça parce qu'en fait il a exploité de manière assez prodigieuse tous les médias, social médias. Et finalement, en fait, il s'est autoproclamé comme le leader de son secteur d'activité. Donc, c'est ce que j'appelle une marque Totem.
D'accord. Donc, à la base, il y a une autodéclaration, une autoprophétie, on pourrait dire. Je suis l'expert du domaine. Mais je suppose qu'à un moment donné, et c'est peut-être le premier point, c'est pour devenir une marque Totem, il faut aussi être reconnu par les autres.
Ah oui, certainement. C'est le point de départ. Hein. Donc, en effet, ça passe par un... Il faut être reconnu par ses pairs et progressivement, ça va se construire. Alors, comment ça se construit? C'est un premier droit et devoir. C'est, en fait, il faut avoir quelque chose de fort à dire. Alors, on aime dire que c'est la palissade de plus. Mais c'est quoi quelque chose de fort? C'est quelque chose, quelqu'un qui va vous indiquer, attention, il va arriver quelque chose. Et si ça arrive, voilà ce qui va se passer. C'est ce que Steve Jobs a fait à l'époque quand il a inventé le smartphone. Il a dit, j'ai supprimé, il n'a pas dit ainsi, il a dit autrement, mais j'ai supprimé le clavier, je vais le remplacer par le clavier tactile, et suite à ça, je vais renverser le monde, et je vais même renverser toute la compétition qui existe dans le domaine des téléphones. Il l'a annoncé, il l'a fait. Et donc ça, c'est ça, en fait, le début d'une marque Totem, en fait, c'est un message fort. Donc, je vous annonce quelque chose qui va arriver, en plus j'y contribue, et ça se passe. Et puis après, vous avez un deuxième déclinaison de la marque Totem, c'est Greta Thunberg. Et Greta Thunberg, elle a rien inventé. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit pas il va arriver quelque chose. Non, elle dit c'est déjà arrivé. Donc là, pour le moment, il est clair que le réchauffement climatique, c'est pas des conneries. Et donc, il est grand temps de changer. Et donc, en fait, là, elle ne nous prévient pas, elle ne nous met clairement devant nos responsabilités. Et donc, on voit que le point commun entre Steve Jobs et Greta Thunberg, et je pourrais encore prendre l'exemple de Uber, c'est un message fort qui annonce un gros changement et qui va renverser le monde. Et donc là, c'est, en fait, c'est la première jambe d'une marque totem. La deuxième, c'est que ce soit porté plutôt par un humain, par un humain. Et donc, c'est vrai que ça a été plus vite parce que c'est Jobs qui l'annonçait, parce que c'est quelqu'un qui avait vécu. Pourquoi ça a fonctionné si fort avec Greta Thunberg? Parce que c'est une jeune fille, maintenant une jeune femme. C'est une humaine, quoi. C'est absolument incroyable. Alors, quel est le concurrent en termes de notoriété de Greta Thunberg dans son domaine? C'est Greenpeace, qui a 50 ans d'âge. Donc moi, je suis en âge, je dois à chaque fois réfléchir. Je vais avoir 57 ans dans 3 mois. Donc il est clair que normalement, j'aurais dû voir la naissance de Greenpeace et d'être impressionné par l'éclosion de Greenpeace. Ben, moi, je m'en souviens pas. Hein. Donc en effet, Greenpeace est dans mon radar. Je sais qu'ils sauvent les baleines, je sais qu'ils mendient de l'argent en rue, etc., pour qu'on souscrive à leur programme, etc. Mais Greenpeace, en fait, je pense qu'il aurait fallu probablement une dizaine d'années pour devenir ce qu'est devenu Greenpeace en termes de notoriété. Et Greta Thunberg, pour rappel, elle est née en 2013. Elle a éclos sur la scène médiatique en 2018. Et 3 jours après, elle était célèbre. Message fort, un humain, poum, elle renverse tout le monde.
Ouais.
Donc voilà, ça c'est les deux jambes d'une marque totem.
Ouais. Et est peut-être née en 2003, puisqu'elle a 20 ans, mais enfin bon, on comprend ce que tu veux dire.
Oui, oui.
Alors,
j'ai dit 2003. Oui,
oui, okay. Oui, c'est pas grave.
Oui.
C'est une licence poétique. On précisera d'ailleurs au passage, pour ceux qui n'aiment pas Greta Thunberg, parce qu'il en est, hein, qu'ici on ne juge pas ce qu'elle dit, ni en bien ni en mal. On est juste en train de prendre un exemple pour montrer une marque totem. Alors après, tu suscites Uber, et là, Uber, il n'y a pas d'humain, ou peut-être Travis Kalanick, peut-être.
Non, il n'y avait pas d'humain, mais ce qui est assez quand même puissant, c'est qu'ils avaient un message ultra fort. Faut quand même on s'est habitué à ça. Mais déjà, ils ont été à la base d'un nouveau modèle économique qu'on appelle l'ubérisation. Mais à la base, c'est quoi? C'est le pitch, il dit, nous, à deux, on va devenir la plus grande société de taxis au monde sans détenir un seul taxi. Honnêtement, la première fois, moi, je ne l'ai pas entendu, on me l'a relaté, mais la première fois que vous entendez ça, mais c'est quoi ça, etc. C'est juste énorme, quoi. Et alors, ce qui est assez fort, c'est qu'eux, ils savaient que c'était tellement puissant, ils ont mis finalement leur énergie, parce qu'en fait, c'est toujours les associés qui sont à la tête, mais de la concrétisation de la promesse. Et donc, c'est vrai qu'ils ont mis un maximum d'énergie et d'efforts à faire que cette application devienne ce qu'elle est devenue, quoi.
Ouais.
Et qui a révolutionné un marché. Donc, c'est vrai que là, voilà, ça, j'en parle un petit peu pour décider que, quand on a un message fort, ça peut également aller très, très vite, pour autant qu'on exécute la promesse. Et ce qui est assez fou, donc, ces gens ont rendu le service beaucoup plus ludique. Ça nous amuse de commander un Uber, on voit la voiture arriver. Ça nous amuse qu'on nous ouvre la porte, on se prend pour des stars. On est très très content de connaître le prix d'avance. Auparavant, on avait peur de monter dans un taxi parce qu'on connaissait pas le prix de la course et les coutumes d'une région. Enfin, moi je me rappelle que quand je montais dans un taxi à Marseille, le chauffeur m'avait dit vous auriez pas dû me dire que vous êtes belge parce que je vais vous truander, quoi. Parce que je connaissais pas la ville. Donc lui, c'était en mode boutade, mais en fait, c'était toujours ça. Moi, auparavant, je n'osais pas entrer dans un taxi parce que ça pouvait varier jusqu'à 250 euros la course, quoi. Donc là, maintenant, vous êtes averti de ça. Et donc, voilà des gens qui ont renversé, ont pris tous les points faibles d'un secteur d'activité et l'ont transformé en opportunité.
D'accord.
Et donc, en effet, donc parfois, le message fort suffit.
Donc là, on voit bien que la marque Totem, ça s'applique à la fois à des personnes et à des entreprises. Au passage, je rouvre une deuxième parenthèse pour dire que pas plus qu'on n'essaye de cautionner la pensée de Greta Thunberg, nous ne donnons pas notre avis non plus sur l'impact social d'Uber. C'est juste un exemple. Alors, revenons sur ça, parce qu'ici, tu nous cites des exemples qui sont à la fois emblématiques, mais en même temps qui font un peu peur, parce que des Steve Jobs, il n'y en a pas eu d'autres. Même Tim Cook, d'ailleurs, n'essaye pas d'être Steve Jobs, et il ne le revendique pas. ni de l'être, ni de l'imiter. Alors, comment l'homme de la rue, Monsieur Durand, Monsieur Dupont, Dupont-Dupont, pourrait dire, puisque tu es belge, comment Monsieur Dupont peut devenir une marque totem?
Oui, mais c'est une très bonne question. J'ai envie de te répliquer que Steve Jobs, avant d'être Steve Jobs, est devenu Steve Jobs. Et il n'est pas né en disant « je suis la nouvelle star ». Donc c'est un processus qui a mis énormément d'années et qui ne s'est pas fait seul. Donc il a été accompagné pour peaufiner ses messages, etc. Donc il y a un modèle de construction. Également, mais il y a déjà des nouvelles marques totem. Il y a Elon Musk quand même, c'est devenu quelque part une nouvelle marque totem dans le monde américain, à sa manière, mais c'est quasi devenu l'équivalent de Steve Jobs en termes de vista. Alors pour répondre enfin à ta question, mais en fait tout s'apprend. Donc c'est vrai que bon, vous avez des acteurs, même des Belges comme Benoît Poelvoorde ou Gérard Depardieu, à qui vous n'avez rien, sont devenus des stars sans avoir eu des cours d'art oratoire. Mais la plupart des acteurs sont des gens qui ont fait 6 ans d'études. Et donc apprendre à être présent on stage, à crever l'écran, ça s'apprend. Donc, il n'y a aucun frein pour qui que ce soit de se former et d'avoir le charisme suffisant pour pouvoir prendre la parole en public, en ligne ou par écrit. Alors là, c'est la seconde chose. Mais l'art de l'écrit, ça s'apprend. Alors là, c'est une grande nouveauté pour nous. C'est qu'on fait partie d'une génération où on n'avait pas besoin d'écrire. C'est pas le fait de bien écrire qui permettait de créer la fonction. Moi, les 2 fois où j'ai dû écrire dans ma vie, c'était mon CV pour essayer de convaincre un patron. Et la deuxième fois, et avant ça, c'est d'écrire une petite lettre d'amour à la petite Christelle, charmante brunette au fond de la classe ou devant la classe que je souhaitais séduire. Donc, à part ces 2 moments-là et jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux, je n'avais pas besoin d'avoir un talent d'écriture pour écrire. Et maintenant, en effet, devenir une marque totem via les réseaux sociaux, soit vous êtes extrêmement doué par la vidéo et ça suffit, soit vous êtes capable d'écrire. Et encore une fois, être capable d'écrire, ça s'apprend. Ça s'appelle des stages d'écriture, des ateliers d'écriture. Et ça commence à se faire. Regardez la maison Gallimard. La Gallimard vous propose des stages d'écriture qui sont pas si chers que ça. Et vous rencontrez pendant 5 à 10 sessions un grand auteur. Moi, je l'ai fait avec Philippe Gian, qui en plus était mon idole. Il est toujours. Mais il est clair que je me sens beaucoup plus costaud depuis que j'ai suivi des cours de Philippe Gian. Je le mentionne également dans mon bouquin. Il y a une Française qui est très connue à Bruxelles. Elle s'appelle Sophie Barthélémy. Uh-huh. Et elle fait aussi un temps plein avec des cours d'écriture que j'ai suivis. Et le syndrome de la page blanche, pour moi, a disparu. Je lutte contre les clichés, etc. Donc, encore une fois, c'est quoi une marque totem? C'est quelqu'un qui maîtrise assez bien l'oralité, qui maîtrise bien l'écrit. Ouais. Et ça s'apprend. Donc, à un moment donné, c'est une décision, quoi.
C'est pas ringard l'écrit, je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas l'air de se préoccuper tellement de l'orthographe.
Oui, c'est un peu ringard, c'est vrai, mais en même temps, si on observe les jeunes et les vieux comme nous, enfin voilà, je pense que je suis un peu plus âgé que toi, les hockey boomers ou les pré-hockey boomers, en fait, on est basculé dans un monde oral basé sur l'écrit. Donc, j'essaie de m'expliquer. On n'utilise plus un téléphone pour téléphoner, on utilise un téléphone comme un clavier. Donc, Apple a supprimé le clavier, mais on a quand même un clavier tactile. Et donc, on s'aperçoit que les gens écrivent plus qu'ils ne le parlent. Et c'est pour eux plus facile de faire passer un message par l'écrit. En tout cas, ça va déjà de manière plus rapide. Également, on est lu de manière plus rapide que si je te parle. Et donc, c'est vrai que les gens sont habitués à ça. Alors là, il y a 2 tendances. Soit vous êtes jeune et vous avez toujours pianoté et donc vous écrivez plus vite que ce que vous me parlez. Et vous avez une capacité à écrire très court et très to the point, et vous n'avez même pas de problème d'orthographe parce qu'il y a un correcteur orthographique intégré dans tous les chats. Vous faites un OK boomer, et là, voilà, vous avez une force par rapport aux jeunes, c'est que vous êtes capable de structurer un texte plus long. On a un peu plus d'expérience, etc., et on sera moins confronté au fait de développer plusieurs idées en parallèle.
Il doit y avoir quelques jeunes qui savent écrire quand même. On ne va pas être trop méchant. Hein, il y en a quand même. Je suppose qu'il y a quelques écrivains d'ailleurs qui doivent être très jeunes et qui sont très bons.
Oui, non, qui sont très bons, oui. Attention, je dis, tu réponds à ta question. Est-ce que c'est ringard? Pour moi, c'est pas ringard du tout, quoi.
Non, mais ça, c'est une bonne nouvelle.
Oui, oui. C'est...
La bonne nouvelle aussi, c'est que tu me trouves plus jeune que toi. C'est, ça, c'est aussi voilà. Une très bonne nouvelle.
Parce donc,
que
en fait,
je viens de gagner cette année.
Mais donc, sur le format court, les jeunes sont plus forts. Sur le format long, les plus âgés ont quelques longueurs d'avance.
Et finalement, ça, c'est quelque chose d'important. Les formats longs, finalement, c'est pas mort non plus, parce que souvent on m'a dit le snackable content, c'est fini quoi. Tout le reste. Non, moi,
je pense qu'il y a quand même quand tu vois le succès de la chaîne Think Viewer, quand tu vois les chiffres de visibilité de cette chaîne, c'est affolant quand même. Et le mec, il est quand même dans un format extrêmement long quoi. Parfois, c'est des interviews qui durent presque 3 heures quoi. Et le gars, justement, souvent l'interviewé oublie la question auquel il répond, parce qu'en fait, il n'a jamais été interrompu, parce que le journaliste, je ne sais même pas si c'est sûr qu'il soit journaliste, ce gars, mais qu'en tout cas, que l'intervieweur lui laisse le temps de dérouler sa pensée, et plus il lui laisse le temps, plus ça devient intéressant, quoi. Ouais. Donc, voilà. Après, il est clair que c'est, faut pas regarder un ThinkViewer juste avant, pendant ton métro et entre deux stations de métro pour passer ton temps. Là, tu regardes TikTok en essayant peut-être de devenir plus intelligent, mais un format court, quoi. Et moi, je suis assez partisan. Voilà, là, je viens d'écrire un premier article de blog. Il s'appelle Joufno, je pense. Mm-hmm. Un blog qui semble tenir bien la route. Et dans ses consignes, il m'a demandé d'écrire super long. Parce qu'il a constaté que sur son blog, les articles qui sont publiés, qui ont le plus de score, enfin, en tout cas, qui sont le plus méritants, en tout cas, qui ont le plus, qui ont plus de likes, je sais pas s'il y a des likes, etc., mais en tout cas, qui sont le plus lus, sont les articles longs. Donc, voilà, c'est un peu contre-intuitif. Donc les gens pensent qu'il y a des formats courts. Je pense qu'il y a un certain retour, ce qu'on appelle le slow content, quoi.
Oui.
C'est de prendre son temps et de s'asseoir, de comprendre les choses.
Oui, tout à fait. Ben, on aime bien ça chez Visionary Marketing. On aime bien les trucs longs et nos lecteurs aussi d'ailleurs. Si ils le montrent d'ailleurs avec leur souris quand on écrit des articles plus longs, en général ça marche beaucoup mieux. Ok, intéressant. Donc finalement, pour devenir une marque totem, que ce soit une personne ou une entreprise, il faut apprendre à avoir un point de vue, avoir un angle aussi, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure avec Greta Thunberg. Bon, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'elle dit, c'est pas le sujet. Elle a un angle, elle a une approche, elle a un message qui est un peu différent des autres, et il faut savoir écrire. Voilà, il faut savoir s'exprimer.
Oui, là, également. Et l'idée, cette idée vient principalement de mon collègue Pierre Mercier. Et Pierre Mercier, ben, quand on analyse un petit peu ce qui bouge sur les réseaux sociaux en termes de contenu, c'est quand on joue sur les opinions, ce que tu appelles un angle, savoir un angle fort par rapport à quelque chose. Et également, et ça c'est l'avantage de jouer sur la personne, c'est les émotions.
Oui.
Voilà, Greta Thunberg, pourquoi ça marche? Parce que quand elle nous regarde avec son regard noir, on est quand même un peu inquiet, quoi. Et donc, elle joue sur nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Et donc, naturellement, mais voilà, une marque totem, c'est une capacité. Maintenant, une marque d'entreprise, il y a des marques corporate, en domaine B2B et B2C, qui sont émotionnelles. J'ai l'impression quand même que L'Oréal est une marque qui est plutôt émotionnelle, me semble-t-il.
Ouais, absolument. Ok, donc... On commence à comprendre ce qu'il faut faire pour être une marque totem. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut devenir une marque totem? Ou est-ce que toute entreprise peut devenir?
Ouais, je vais être nuancé dans le sens, toutes les entreprises où on n'a pas vraiment le droit de parler, ça va être compliqué. Donc c'est toujours le donc il y a encore pas mal de... Les chakras ne sont pas encore libérés. Et donc la com est considérée comme quelque chose de très très dangereux. Et ne pas donner à toutes les mains. Donc, en effet, le seul frein, c'est que la direction des sociétés soit, frileuse par rapport à ce qui arrive. Pour donner un exemple, sans citer le nom, mais pour le moment, on a dans notre clientèle quelqu'un qui va racheter un autre. Donc, pour le moment, il a très peur. Et donc, il a arrêté de communiquer sur les réseaux sociaux pour éviter la moindre chose qui pourrait faire en sorte qu'il rate le rachat de son concurrent.
Oui.
Mais alors que, on lui a suggéré quelques pistes, mais donc voilà, il a trop peur. Donc finalement, il ne l'a pas fait. Donc, Pour répondre à ta question, c'est accessible à tout le monde, mais par contre, c'est pas accessible à toutes les boîtes qui ont peur de cette nouvelle manière de communiquer.
Mais justement, est-ce que cette peur est rationnelle? Moi, j'ai souvent été confronté à elle. On a peur de s'exprimer, on a peur de prendre une position sur son marché. Est-ce que c'est rationnel et est-ce que c'est viable?
Mais est-ce qu'une peur est rationnelle? C'est la question qu'il faut se poser, quoi. C'est, souvent, en fait, on a plus peur de... Enfin, on a peur que la peur arrive. Je ne sais pas comment m'exprimer. Enfin, je ne suis pas spécialiste, hein. Je ne suis pas un psychologue. mais oui, la peur existe, mais ça n'enlève pas. C'est une lapalissade, mais ça n'enlève pas le danger, quoi. Et ça, c'est un exemple que je donne à la fin de mon bouquin. Je dis, par exemple, des gens, enfin, ce qu'on appelle en Belgique les Big Five, c'est les Deloitte, les Capgemini, les Ernst & Young, je pense que c'est les mêmes chez vous. Mm-hmm. Oui. Ces grands bureaux de conseil, ben c'est absolument lamentable ce qu'ils publient, quoi. Et donc, la seule stratégie, pour le moment, c'est de meubler des espaces qui sont presque gratuits ou achetés par des broutilles, par un truc qui est hyper lisse et qui ne disent rien, quoi. Alors, au contraire, quand on regarde, et c'est le cas, je peux t'assurer, tu peux regarder ce qui publie, c'est quand même catastrophique. Il y a peut-être juste Deloitte qui, en termes de visuel, fait un petit peu mieux pour le moment. Mais sinon, il y en a deux qui sont vraiment, qui sortent de l'eau. Enfin, c'est Boston Group et McKinsey. Et McKinsey, ils ont même pas besoin de gens forts pour dire la parole. Quand on voit les articles de blog qui sortent, c'est très très puissant. Mm-hmm. Et donc, naturellement, c'est eux qui drivent finalement les décisions des comités de direction parce que leurs contenus sont excellents. Et là, il y a un angle qui est fort. Hein. Hmm. C'est alors que les Deloitte, ben, ils vont, ouais, c'est très gentil, quoi. Et, donc voilà, je suis.
On va pas se faire des amis chez mon ancien employeur Capgemini, notre ami.
Non, mais écoute, voilà, mon ex-femme travaille toujours chez Deloitte, donc j'ai dit un truc positif, donc pour le moment ça. c'est eux qui s'en sortent le mieux, mais c'est pas grâce à moi. Il y a longtemps qu'on ne s'est plus parlé. Mais en tout cas, voilà, c'est encore une fois, c'est la parole forte qui va faire bouger les lignes.
Ouais, entendu. Bon, je ferai quand même peut-être une petite aparté pour Capgemini, qui ne fournit pas des documents aussi mauvais que ça, et surtout quand j'y participe, c'est plutôt pas si mauvais que ça.
Oui, mais de toute façon, mes avis sont purement subjectifs, hein, donc il y a, voilà. C'est juste une tendance que je donne. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, pourquoi est-ce qu'ils publient presque de l'insipide, donc je vais nuancer, c'est parce qu'ils ont très peur, en fait, d'avoir un retour de manivelle. Mais encore une fois, ils ont peur, mais en fait, ça n'exclut pas le danger. Et donc, pour le moment, il y a quand même des boîtes de consultance qui arrivent sur le marché avec des personnalités assez fortes qui osent dire les choses. Mmh. Et donc, s'ils ne le font pas, ils vont se faire renverser par d'autres.
Oui, bien sûr. Puis ce que tu racontes, en fait, on le rencontre souvent dans les grandes entreprises, sans citer de nom pour pas se fâcher avec personne, dans ce qu'on appelle le contenu corporate, qui est finalement du contenu institutionnel pas très intéressant. Qui est là en fait pour dire pas grand chose, quoi, en fait, pour pas gêner, quoi, hein, pour pas embêter le monde. Et du coup, on se demande pourquoi on le fournit, en fait, d'une certaine manière. Ça, on le rencontre très souvent. Mais on va pas citer de nom, hein, on va pas se faire d'ennemis comme ça, bêtement. En tout cas, on est bien en phase, il y a effectivement produire du contenu uniquement pour produire du contenu, ça ne sert pas à grand chose. Alors, comment tu recommandes, tout à l'heure tu as dit quelque chose d'important, il faut incarner la marque d'un point de vue humain. Comment on fait ça?
Je pense qu'essentiellement c'est un travail d'équipe. Donc Steve Jobs n'était pas tout seul, quoi. Elon Musk n'est pas tout seul. Non. Et donc naturellement ce sont des gens qui sont considérablement aidés. Et être présent tous les jours sur les réseaux sociaux, quand vous êtes CEO, directeur commercial ou simple commercial, c'est impossible. Et donc, ça, c'est une, ça devient de la palissade à travers tous mes bouquins, mais dans le dernier bouquin, je disais que être connu d'avance, sans avoir l'appui du service marketing qui vous aide à exister sur les réseaux sociaux, jamais vous serez connu d'avance. Ici, pour devenir une marque totem, à un moment donné, c'est une décision de reprise, quoi. C'est qu'à un moment donné, on dit, on va se focaliser sur la montée en puissance de deux ou trois profils, Et naturellement, ben, on va mettre ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Et ça passe par des ressources internes. Soit se tomber sur un mec qui est génial, mais bon, ça, ouais. c'est quand même assez rare. Hein. Mais donc, en fait, la première chose, c'est de sélectionner en fait ceux qui ont peut-être le meilleur potentiel. Mm-hmm. Et puis après, ben voilà, de constituer les équipes qui vont l'entourer pour le faire monter en puissance. Alors, à la fin du bouquin, je dis, il y a trois pistes. Bon, on pourrait focaliser sur les commerciaux, parce que c'est eux qui sont quand même en tête de pont. Mm-hmm. Et après, de plus en plus, je me dis qu'il faudrait peut-être mieux, parce que ça coûte quand même de plus en plus cher de le faire, même si on va utiliser des supports gratuits, c'est utiliser les pre-sales, qui existent quasi maintenant dans toutes les fonctions, dans l'architecture, mmh. dans l'informatique, même dans la communication. Il y a ce qu'on appelle les pre-sales, des gens qui accompagnent les vendeurs. Et ces gens, en fait, déjà, ça débarque totalement d'eux-mêmes, parce qu'ils sont intéressants, quoi. Ils sont intéressants sans être intéressés. Donc, ils vendent sans vendre. Et parce qu'en fait, ils sont invités pour déclamer leur passion, et ils ont vraiment une expertise spécifique. Et donc, ça vaudrait peut-être la peine, justement, de capitaliser sur l'augmentation de notoriété de ces pre-sales. Ouais. Dans ma vie antérieure, avant Estocada, j'ai travaillé 14 ans dans l'informatique, et j'ai côtoyé notamment 6 pre-sales. Donc moi, mon job, c'était de débroussailler avant de les faire venir, afin qu'ils ne perdent pas trop de temps et que ce soit sur une réelle opportunité. Chaque fois que j'étais accompagné par un des 6, je savais que c'était gagné, quoi. Ces mecs étaient tellement forts que j'avais plus qu'à faire signer le bon de commande, quoi. Donc, à l'époque, si on avait pu leur augmenter leur notoriété, ça aurait été plus puissant, quoi. Donc, la deuxième piste, c'est de plutôt se focaliser vers le pre-sales. Et alors, il y a la troisième, hein, c'est de mettre en place ce qu'on a toujours fait dans les boîtes de consultance, que ce soit Deloitte, Capgemini, etc. En fait, c'est les associés qui vendent, parce qu'ils font du lobbying en interne. Et maintenant, on peut faire du lobbying de manière digitale. Et là, encore une fois, pour le moment, je ne pense pas que les Big Five soient très, très actifs en termes de personnalité qui se sont mis en avant pour devenir une marque totem. Mm-hmm. Mais c'est étonnant parce que ce modèle fonctionne dans la vie réelle, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans la vie digitale.
Alors, une petite question pour finir, parce que justement, tu parles de marque totem et de personnes qui représentent cette marque totem. Est-ce qu'il suffit de faire tweeter le patron pour qu'on puisse considérer que la marque devient une marque totem?
Oh, c'est pas si facile que ça. Ce qu'il y a, en fait, il faut avoir une capacité à raconter tout le temps le même message, mais avec plusieurs angles. Donc, mm-hmm. Dans mon bouquin, je parle de la marque Michelin. Et la marque Michelin, au début de sa carrière de vendeur de pneumatiques, ces gens ont été confrontés à devoir créer un marché. Donc, on avait une bagnole, mais en fait, on n'avait aucun besoin d'utiliser cette voiture, quoi. À part aller chercher du bois, peut-être dans le bois. Et puis après, Michelin a sorti les guides Michelin pour donner envie d'aller voir le village d'à côté, puis la ville d'à côté, et puis même après de traverser l'Atlantique. Et donc, c'est vrai que pour user de la gomme, Michelin a créé un besoin. Voilà. Et puis dans un second temps, tout le monde a compris que c'était super sympa de polluer la planète avec ses bagnoles, etc., et de visiter le monde entier. Il n'y avait pas besoin de créer le besoin. Par contre, il fallait se différencier. Et ça, c'est un exemple que je donne très souvent en atelier ou en conférence. Quand on se remémore les vidéos, enfin les pubs des années 70 et 80 des pneumatiques, on voit des voitures qui sortent de la route. Parce qu'à l'époque, les Uniroyal, Michelin, Gouttière, ils doivent pas nécessairement lutter entre eux, mais contre les marques exotiques, quoi. Ouais. Et donc, on prenait souvent l'exemple, si vous prenez un pneu tchécoslovaque, le pays n'existe plus, mais alors on peut être méchant, vous alliez sortir de la route et vous tuer, quoi. Et vous ne vivez qu'une fois. Et donc, ils jouaient sur la peur. Ouais. Et puis, maintenant, ce besoin, cette peur de non-adhérence a disparu, donc tous les pneus se valent. Vous achetez n'importe quelle marque de pneus, en fait, vous n'allez jamais sortir de la route, sauf si vous êtes, c'est vous le fautif, quoi. C'est pas que vous êtes pneu. Mmh. Et Michelin, en fait, a fait un troisième basculement. Quand vous allez sur leur site web, ils disent qu'ils vendent des équipements pneumatiques qui sont faits pour durer longtemps. Alors qu'avant, il fallait rouler pour les user vite pour qu'ils s'enrichissent. Maintenant, ils vont s'enrichir s'ils arrivent à un truc qui justement, va pas s'user trop, trop rapidement. Et donc, on voit que l'exemple que je donne, mais quand vous parlez à un public, quand vous êtes une marque totem, vous devez être capable de parler à ces trois publics. Donc, des gens qui n'ont pas compris que votre service est indispensable, donc il faut parler à ces gens-là. Puis il y a des gens qui ont compris qu'ils ont besoin de vous, mais là, vous se différenciez par rapport aux grands méchants vilains et concurrents. Voilà. Et puis la troisième, c'est que non seulement ils ont compris, mais ils vous achètent parce que vous, vous sauvez le monde. Et donc là, vous avez avec trois marchés. Et donc l'idéal, c'est d'être clivant dans les trois strates et de dire, tiens, ben oui, mais je ne suis pas comme eux. Je suis différent. Voilà ce que vous avez chez moi. Donc en fait, le conseil que je donne, il faut avoir une capacité à parler à tout le monde sans parler à tout le monde. Et donc, il faut être conscient qu'on est face à un marché hétérogène. Et donc, le message fort, il faut être capable de le délivrer de multiples façons pour parler à différentes strates. Le point commun est qu'il faut... Après, c'est difficile d'utiliser le mot clivant. Il ne faut pas être nécessairement agressif, etc. Et clivant, c'est d'avoir choisi son camp. Mm-hmm. La marque Philippe de Liège a choisi son camp. La marque Estocada a choisi son camp. Et donc, c'est important de faire percoler cette information-là. Donc, il ne faut pas nécessairement être clivant pour être clivant. Hein. Ouais. On ne doit pas nécessairement aller dans le bourrin, etc., de dire, voilà, c'est comme ça. En fait, on peut être clivant sans être clivant. Et ce qui est important, encore une fois, c'est choisir son camp.
Je voudrais revenir, pour finir, sur cette phrase. Il faut parler à personne, mais il ne faut pas parler à tout le monde. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que c'est intéressant, il faudrait fouiller un petit peu. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là ?
C'est-à-dire que quand je m'adresse à mon public, je vais faire en sorte, en variant les différents contenus que je vais émettre, soit par la parole, soit de manière écrite, je vais parler à trois cibles potentiellement différentes. Donc finalement, je décide de parler à mes trois cibles. Mm-hmm. De temps en temps l'une, de temps en temps l'autre, et de temps en temps la troisième. Par contre, à chacune de ces audiences, il y en a que je vais choquer. Parce que des gens vont pas acheter ce que je préconise, en fait. Et donc ça, je vais en fait me montrer, en tout cas, irritable pour un certain nombre d'entre eux. Mais je m'en fous. Bon, ce qui est important, en fait, c'est que les gens qui sont intéressés par moi ou par mes produits ou par mes services ou par ma boîte viennent pour des bonnes raisons. Ils ont compris que chez moi, chez nous, ça se passe plutôt comme ça. Et qu'on défend des angles assez forts. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pouvoir parler à tout le monde sans parler à tout le monde. Je ne sais pas si je l'ai mieux expliqué.
Oui, et il faut accepter parfois de se séparer certaines personnes à qui on n'a pas envie de parler ou qui ne sont pas sensibles à la façon dont on parle. J'ai vu comme ça des marques totems, on ne citera pas de nom encore une fois, sur les médias sociaux, notamment LinkedIn en particulier, signifiait qu'une grande marque avait exprimé son désaveu par rapport à des publications de cette personne et que du coup, eh bien, justement, il avait décidé de ne plus travailler avec eux. Donc c'était un choix, effectivement, parce que bon, ils supposaient considérer que leurs valeurs n'étaient plus alignées et que et du coup, ils n'avaient plus envie de travailler avec eux. Bon, c'est intéressant, je crois que ce point-là est assez difficile à expliquer, mais il est important, effectivement. Et écoute, Philippe, merci pour ce temps passé sur ton bouquin « Devenir une marque totem, droits et devoirs du personal branding », que l'on va trouver chez les bons libraires, bien entendu.
Oui. Chez le meilleur Amazon favori de votre quartier.
Voilà, chez le meilleur Amazon favori de votre quartier.
Alors, j'aimerais également signaler deux personnes qui ont contribué à ce fait que ce livre existe. Ben, d'une part, la personne qui a mis en page et qui est l'auteur de tous les visuels qui sont dans le bouquin. Donc, je travaille avec un jeune artiste de Liégeois, parce qu'il est jeune, à 35 ans. Donc, voilà, donc c'est un gars qui a
Loïc Palage.
Loïc Palage. Donc, il a réussi à se croquer. Donc, à la dernière page, vous voyez un petit peu sa trombine. Et également remercier Jean-Denis Garot, qui a fait une postface de dingue. Et qui a été reprise déjà deux reprises dans des sites marketing, en fait. Donc, merci à lui.
Jean-Denis qui vient de rejoindre Odigo comme directeur du product marketing. Eh bien, merci Philippe.
Merci pour l'invitation.
Longue vie à devenir une marque totem.
À bientôt.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.